Vous écoutez RFI, il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir. Romain Oswin.
Lundi 17 février, bonsoir à tous. Rien que l'actualité, mais toute l'actualité expliquée, analysée pendant 3 heures. C'est parti, soyez les bienvenus dans la session soirée de l'info sur RFI. Et au programme dans 10 minutes, le décryptage. Amélie Beaucourt, vous vous intéressez ce soir au Conseil constitutionnel en France.
Oui, bonjour Romain. 3 sièges sont renouvelés cette année, dont celui du président du Conseil. Et Emmanuel Macron a proposé l'un de ses proches, l'ancien député Richard Ferrand. Un profil qui pose la question de l'indépendance du Conseil constitutionnel vis-à-vis de l'exécutif. C'est de ça dont on va parler dans 10 minutes.
Eh bien, tout à l'heure, juste après, le débat du jour sera au chevet de la relation transatlantique. Tous les voyants sont au rouge et annoncent un tournant dans l'avenir de la sécurité européenne après les récentes prises de position américaines qui excluent les 27 des négociations sur l'Ukraine. Ceux-ci, les 27, sont réunis en urgence ce lundi à Paris. L'Europe peut-elle se détourner des États-Unis? C'est la question que nous poserons. Comment s'affranchir du géant américain? Réponse dans 30 minutes. Dans une heure, le grand journal du soir et le dossier justement qui sera en direct de cette réunion à Paris. 18h30 TU, Afrique Soir, la première édition. 19h10, temps universel, votre session reportage pendant 50 minutes. Accent d'Europe sera ce soir au Groenland. Comment le dérèglement climatique va changer la vie quotidienne des habitants? Enfin, le grand reportage à 6 jours maintenant des élections législatives en Allemagne. La hantise du déclin économique. Voilà pour le programme, mais pour l'heure, 17h, bientôt 2 minutes en temps universel, c'est le journal de Karine Bélicha. Bonsoir Karine.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et à la une donc, les Américains et les Russes qui vont se retrouver à Riyad demain et les Européens qui se réunissent en ce moment à Paris.
À l'Élysée, une réunion organisée en toute hâte pour faire face au rouleau compresseur américain. Une dizaine de dirigeants de l'Union Européenne et de l'OTAN entendent répondre à Donald Trump qui fait cavalier seul. Le président américain planifie ses retrouvailles avec Vladimir Poutine. Il envisage de négocier la paix en Ukraine en tête à tête avec son homologue russe. Pour les Européens, il est donc urgent de présenter un front uni. La question de l'envoi de troupes en Ukraine est débattue, même si plusieurs pays affirment déjà que cette question est prématurée. Et la Hongrie, qui n'est pas invitée à Paris, veut une nouvelle fois faire entendre sa propre partition. À Budapest, Florence Labruyère.
La décision de Donald Trump de négocier directement avec Vladimir Poutine a choqué les Européens. Mais le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, applaudit l'initiative de Donald Trump.
Nous sommes persuadés que les efforts de Donald Trump vont porter leurs fruits. Le dialogue entre Américains et Russes peut ramener la paix en Ukraine.
Le ministre de Viktor Orban accuse même les dirigeants européens de vouloir saboter les chances d'un retour à la paix.
Aujourd'hui à Paris, des dirigeants européens frustrés, pro-guerre et anti-Trump se réunissent pour empêcher un accord de paix en Ukraine.
Depuis plusieurs années, Viktor Orban affiche sa proximité avec Moscou. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche semble conforter le Premier ministre hongrois dans ses positions. Florence Labruyère, Budapest, RFI.
Le sommet à Riyad entre les États-Unis et la Russie s'annonce, lui, sous les meilleurs auspices. Les deux pays veulent acter le rétablissement de leurs relations, préparer un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine et peut-être jeter les bases d'un plan sur l'Ukraine. Tenu à l'écart, Volodymyr Zelensky va se rendre en Arabie Saoudite mercredi, au lendemain de cette rencontre où il n'a pas été convié. Pas question, dit le président ukrainien, de reconnaître un accord conclu sans lui. Donald Trump s'est entouré de grands patrons lors de son investiture. Aujourd'hui en Chine, Xi Jinping a tenu une réunion avec le gratin du secteur privé dans un contexte de ralentissement économique et d'affrontement commercial avec les États-Unis. Pékin multiplie les ouvertures à l'égard des chefs d'entreprise et des investisseurs afin de renforcer leur confiance. La correspondance de Cléa Broderst.
Une rencontre de haut niveau avec des figures incontournables. Yan Zhenfei, fondateur de Huawei, Wang Xuanfu, patron du géant des véhicules électriques BYD, Robin Zheng, à la tête du leader mondial des batteries CATL, ou encore Wang Xing, cofondateur de la plateforme de livraison Meituan, mais aussi des entrepreneurs de la nouvelle génération comme Lian Wenfeng, créateur de DeepSeek, le modèle d'intelligence artificielle chinois. La présence de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, suggère qu'il est en train de retrouver sa place parmi les géants après une longue période où il a dû rester discret secret sous la pression des autorités. Cette réunion intervient alors que la Chine peine à relancer son économie. Avec une croissance de 5% l'an dernier, l'une des plus faibles depuis des décennies, Pékin cherche à rassurer les investisseurs et encourager l'innovation sur le marché intérieur. Le message est clair, après des années de restrictions, le gouvernement veut un climat plus favorable aux entreprises. Xi Jinping mise sur la technologie pour renforcer l'indépendance du pays et réduire sa dépendance aux géants américains, tout en montrant que la Chine reste un acteur majeur de l'innovation en pleine tension commerciale. Cléa Broders de Pékin, RFI.
En dehors de la Chine, DeepSeek continue de provoquer des remous. Son robot conversationnel a créé la stupeur par sa capacité à égaler ses concurrents américains avec des coûts bien inférieurs. Mais la start-up chinoise continue d'interroger sur la collecte des données personnelles qui pourraient être utilisées par Pékin. Certains pays ont interdit l'utilisation de DeepSeek. D'autres ont lancé des enquêtes. En Corée du Sud, Agnieszka Kumor, l'application n'est plus disponible.
Depuis lundi, impossible de télécharger DeepSeek à partir des boutiques d'applications locales. Le robot conversationnel est également banni des ministères et des ordinateurs de l'armée. Il continue toutefois de fonctionner pour ceux qui l'ont déjà. Les autorités sud-coréennes veulent savoir comment les informations personnelles des utilisateurs sont gérées par DeepSeek. Dès la fin janvier, le régulateur sud-coréen avait demandé des explications à la start-up chinoise. Celle-ci avait reconnu des manquements et promis des rectifications. En attendant, le chatbot reste bloqué. La Corée du Sud fait partie des pays tels que l'Italie, la France ou encore l'Australie qui ont exprimé des inquiétudes sur la protection par DeepSeek de la vie privée des utilisateurs et sur la sécurité nationale. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a répondu à Séoul qu'il ne fallait pas politiser les questions commerciales et technologiques.
Ce n'est pas lui. D'anciens otages avaient reconnu formellement Medine Mouche après la tuerie du musée juif de Bruxelles comme leur geôlier en Syrie. À l'ouverture de son procès de 4 autres djihadistes devant la cour d'assises spéciale de Paris, Medine Mouche a nié d'emblée avoir séquestré des otages, dont 4 journalistes français, Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres avaient été enlevés les uns à Alep, les autres à Raqqa en 2013. Ils n'ont été libérés que près d'un an plus tard, après des mois de violences physiques et psychologiques. Le procès se tient jusqu'à fin mars. Toujours en France, alors qu'il va devoir affronter cette semaine une nouvelle motion de censure déposée par le PS, François Bayrou est toujours empêtré dans l'affaire Betarame. Le Premier ministre est très critiqué pour avoir affirmé devant les députés qu'il n'avait pas été informé de l'existence de violences, notamment sexuelles, dans cet établissement catholique où certains de ses enfants étaient scolarisés, une version contestée par plusieurs enquêtes de presse. Demain, le maire de Pau va de nouveau faire face aux députés lors des questions au gouvernement. Valérie Gasse.
François Bayrou va devoir peser chacun de ses mots car nul doute que le Premier ministre va être interrogé encore une fois dans l'hémicycle sur l'affaire Betarame et ce qu'il en savait. Ce matin encore, le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, a accusé François Bayrou d'avoir menti la semaine dernière devant la représentation nationale, invoquant plusieurs témoignages recueillis depuis par la presse selon lesquels le Premier ministre avait connaissance des faits. Il en tire la conclusion que le chef du gouvernement doit quitter Matignon. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, a lui aussi estimé que François Bayrou avait menti et a expliqué que selon lui, s'il avait couvert ces violences, il devait en conscience démissionner. La tentative de déminage du chef du gouvernement samedi lorsqu'il est allé rencontrer des victimes à Pau et est apparu particulièrement ému face à la presse pour affirmer à nouveau sa bonne foi, annoncer des actions en faveur des victimes, la montée au créneau de ses proches comme Marc Fesneau pour expliquer qu'il n'avait pas connaissance des violences sexuelles quand il était ministre, n'ont pas suffi à calmer les critiques de la gauche qui continue donc son offensive politique.
Le pape François va rester hospitalisé au moins jusqu'à mercredi. Il présente un tableau clinique complexe selon le bulletin de santé publié. François, âgé de 88 ans, se trouve à l'hôpital Gemelli de Rome depuis vendredi pour une grosse infection des voies respiratoires. Et puis un mot de cinéma. À 15 jours des Oscars, Conclave et The Brutalist ont été récompensés au BAFTA hier. Égalité, 4 récompenses britanniques chacun. Conclave a été sacré meilleur film. The Brutalist s'est imposé dans les catégories meilleur réalisateur et meilleur acteur pour Adrien Brody qui incarne un architecte survivant de la Shoah. Voilà, c'est la fin de ce journal. Restez à l'écoute d'RFI. Tout de suite, le décryptage d'Amélie Beaucourt.